Vous écoutez RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
La marquise de Sévigné, aujourd'hui célèbre dans le monde entier pour son courrier intime, n'en demandez pas tant.
Jusqu'à 22h,
Carthage entreprendra de se venger. En 218 avant Jésus-Christ, elle se lancera dans la deuxième guerre punique. Cette guerre scellera le destin d'un enfant qui deviendra l'un des plus grands guerriers de tous les temps, Hannibal.
RTL.
Nous sommes au 12e siècle. La troisième croisade vient de commencer. Deux grands seigneurs vont s'affronter, Saladin et Richard Cœur de Lion, le plus valeureux chevalier de la chrétienté.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On est très heureux de recevoir Stéphane Bern dans la curiosité. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir, merci de me recevoir. Une très jolie musique.
Bah oui,
c'est pour vous.
On s'était dit que ça vous plairait.
Très bien.
On va raconter, on adore ça ici, le destin des puissants qui ont dominé le monde, de ceux qui les courtisaient et de leurs secrets. Vous connaissez particulièrement ces secrets d'histoire, évidemment, c'est le thème de votre émission sur France 2 et de vos livres. Vous en publiez un, le tome 6 chez Albin Michel. Allez, on commence en remontant 290 ans en arrière, 1725. J'aime bien trouver une première date qui claque un peu, qui sonne rond. C'est l'année de la première publication des lettres de Madame de Sévigné. Tiens, est-ce qu'elles étaient destinées à être publiées,
ces... Pas du tout. C'est ça qui est incroyable. C'est que Madame de Sévigné écrivait à sa fille d'abord, Marguerite Françoise, comtesse de Grignan, à qui elle l'écrivait simplement pour lui raconter à la fois ce qui se passait dans la vie, la chronique de la cour, mais aussi des conseils médicaux. Il fallait plus prendre de ceci ou plus prendre de cela.
C'était très personnel.
C'était très intime, très personnel. Elle n'avait absolument pas l'intention que ces lettres soient publiées. Elles l'ont été 28 d'abord en 1725, et ensuite c'est sa petite fille, Madame de Simiane, qui a vu l'intérêt, en tout cas parce que c'est le roi Louis XIV lui-même avait dit autrefois que les lettres étaient tellement bien écrites qu'on ne pouvait pas mettre en prison une telle frondeuse. C'est vrai que on a commencé par retrouver des lettres, certaines avaient été expurgées, puis voilà, on a fini dans les années 1740 à publier in extenso les lettres de Madame de Sévigné. C'est un régal.
Et c'est devenu un classique de la littérature française. C'était qui, Madame de Sévigné?
Marie de Rabutin-Chantal, qui était la petite fille de Jeanne de Chantal, qui était une sainte. Elle avait plutôt de l'argent, il faut bien dire, elle était d'une bonne famille noble. Elle est mariée à 18 ans à un aristocrate qui est Henri le Marquis de Sévigné. Il faisait pas de chocolat à l'époque, je le dis sans remarque, parce que maintenant, les gens vont mélanger un peu tout. Oui. Et qui trompait beaucoup sa femme, notamment avec Ninon de l'Enclos. Les liaisons dangereuses, ça vous dit quelque chose? Eh bien voilà. Et elle devient une figure des salons littéraires. Elle est reçue partout, elle tient un salon, elle avait un bel esprit, elle avait été très, très bien formée, très cultivée. Et vous savez, à l'époque, on fait des mots, on fait des charades, on fait des rimes, on fait des bourrimés, comme on disait. Ben, on n'avait pas la télévision, il fallait bien s'occuper le soir.
Des bourrimés. Mais qu'est-ce que c'est donc?
Ben, vous savez, vous écrivez le début de la phrase, vous n'avez jamais joué à ça,
comme des
Sidonie.
Cadavres exquis.
Oui, ça, quand d'accord. Vous étiez gamine, on faisait ça, vous savez, on écrivait un mot, puis l'autre à côté
écrivait.
Voilà, d'accord. Donc c'était des bourrimés. Et puis, cela dit, son cousin, qui est assez terrible, qui est Roger de Bussy-Rabutin, qui lui se fait mal voir de la cour parce qu'il publie l'histoire amoureuse de la Gaule. Je ne sais pas comment il l'écrivait d'ailleurs, la Gaule, parce que vu ce qu'il écrit, c'était assez leste. Eh bien, il dit d'elle qu'elle était insupportable, tout ça parce qu'elle lui avait refusé de l'argent.
Et ils se sont écrits beaucoup
ils
d'ailleurs.
Ils se sont beaucoup écrits, ouais. Et d'ailleurs, il a été, je crois, son deuxième lecteur en quelque sorte, parce qu'elle lui a écrit 136 lettres qui sont parmi les plus belles.
Est-ce qu'on a les réponses?
Alors, on a les réponses.
Est-ce qu'on dit les lettres de Madame
Sévigné? On a les réponses de Bussy-Rabutin. On n'a pas les réponses de Madame de Grignan.
De sa fille.
C'est tout le problème. Mais vous savez, elle l'a aidé, elle a beaucoup aimé être maltraitée par son cousin dans ses lettres, mais il disait d'elle, l'air qu'elle souffle est plus pur que l'air qu'elle respire. C'est-à-dire, c'était vraiment une femme intelligente. Elle fréquentait dans son salon, il y avait la grande mademoiselle, la cousine frondeuse de Louis XIV. Il y avait la future Madame de Maintenon, qui était la veuve Scarron, qui était une femme d'esprit. Il y avait Mademoiselle de Scudéry, les précieuses ridicules, ça vous dit quelque chose? Ça avait la carte du tendre.
Elle observait tout ce petit monde.
Elle observait le monde et elle racontait.
Et c'est ça, et c'est ce qu'elle racontait dans ses lettres.
Racontait tout ce qui se passait à la cour.
Mais en mode potin ou
non, en mode de la conversation.
D'accord, c'était bienveillant.
C'était plutôt bienveillant. Ouais. C'était un esprit qui, Ça pouvait être piquant parfois, mais sur le ton de la conversation.
Mais avec sa fille, pourquoi lui écrivait-elle autant? Elles étaient géographiquement éloignées, elles ne se voyaient pas,
Elles se sont vues plusieurs fois, mais vous savez, les distances n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui.
Bien sûr, oui.
C'est-à-dire que elles étaient séparées de 400 kilomètres, et il fallait plusieurs journées de cheval, évidemment, pour même plusieurs semaines. Oui. Et donc, elles s'écrivaient par jour de poste, et donc les postes étaient trois fois par semaine, qu'il y avait les relais, les chevaux qui partaient. Et donc, il y avait trois lettres par semaine qui partaient de chez la marquise de Sévigné, qui était dans son hôtel du Marais, aujourd'hui le musée Carnavalet, et qui allait au château de Grignan, en Provence. Je vous invite à aller voir le château de Grignan, c'est un endroit magique.
Mmh. Comment elle est morte? Tranquillement.
Elle est morte, elle a été emportée dans de la petite vérole à 70 ans. C'était en 1696. Et elle a eu le temps de voir le mariage de ses petits-enfants qui se sont mariés avec des bourgeois. Mais il faut dire, comme elle a eu ce mot d'esprit, il faut bien mettre du fumier sur les meilleures terres. Mais
elle était piquante.
Ouais. Elle était piquante. Mmh. Et je trouve que c'est une grande mémorialiste et on apprend plus, beaucoup plus que sur. Bon, j'adore Saint-Simon, évidemment, mais grâce aux lettres de Madame de Sévigné, on apprend les petites choses du quotidien au XVIIe siècle.
Merci de nous avoir donné envie de relire les lettres ou de lire pour la première fois. Lettres de Madame de Sévigné. Autre secret d'histoire à découvrir avec vous, Stéphane, celui
encore
de
une femme.
Désirée Clary. On a dit qu'on ferait que des femmes ce soir. Elle aurait pu être impératrice, elle sera reine, c'est pas mal
seulement.
Quand même.
Désirée. Elle aurait pu être tout.
Bon.
Toutes les femmes
fera le résumé.
Tous les hommes la courtisaient.
On fera le résumé tout à l'heure. Restez avec nous, sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Est un vilain défaut.
Il faut dire que la jolie jeune fille porte bien son nom, Désirée. Elle va d'abord croiser le chemin de Napoléon.
Jusqu'à 22h.
À Fontevraud, les hommes et les femmes vivaient ensemble, séparés, mais dans la même communauté religieuse. Donc c'est une forme de cité idéale avant l'heure qui a été fondée à Fontevraud.
RTL.
Charlemagne est d'abord un roi qui croque la vie à pleines dents.
Il a eu plus de 20 femmes. Enfin, telles qu'on les connaît.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité avec Stéphane Bern ce soir qui nous dévoile les secrets d'histoire de son livre publié chez Albin Michel. Stéphane, on se passionne maintenant pour le destin fabuleux de Désirée Clary. Donc c'est l'héritière d'une riche famille de négociants marseillais. Elle est donc très très convoitée, notamment par les Bonaparte. Oui. Les frères sous la dispute, c'est ça?
Les frères sous la dispute, parce qu'il faut savoir que les Bonaparte avaient été, à cause de la guerre fratricide avec les Paoli, ils se sont retrouvés à Marseille. Et donc, ils sont à Marseille, et Joseph trouve, en fait, que Désirée est la plus jolie, et la plus appétissante.
Parce qu'il y a deux sœurs, Clarisse,
c'est ça. Il y a Julie et Désirée. Sauf que Napoléon est très malin. Lui, il courtise Désirée, Napoléon. Il se dit, je vais convaincre mon frère d'épouser Julie. Et comme ça, moi, je me garde la deuxième, en disant, d'abord l'aîné prend l'aîné, et le cadet, la cadette. C'est ce qui se passe, donc l'aîné, Joseph épouse Julie en 1794 et lui se réserve Désirée. Mais c'est le moment où Napoléon, en 1790, il commence à devenir un général qui commence à avoir un peu de succès. Il est rappelé à Paris. Je vous rappelle que là, il mène la campagne, l'armée de l'Ouest qui va contre les Vendéens. Et l'idylle, au fond, souffre de l'éloignement. Ils sont fiancés en 1795. Mais il faut dire que la famille Clary n'est pas très enchantée. D'abord, la première, Julie, a épousé Joseph Bonaparte qui n'a pas d'argent, il n'a pas de fortune. Et maintenant, voilà que le deuxième est un général sans avenir parce que personne ne pouvait prédire aucun avenir à Napoléon Bonaparte. Et en plus, il n'a pas d'argent. Donc, on n'en veut pas. Et alors, il est tellement désolé qu'il écrit un roman qui est sans...
C'est-à-dire que Désirée le plaque, en gros.
Elle ne le plaque pas du tout, pas du tout. Elle l'attend, mais la famille est contre.
D'accord.
Mais elle est amoureuse, évidemment. Et alors, Napoléon voit son amour contrarié. Il écrit un petit roman, Clisson et Eugénie. Le deuxième prénom, c'était Eugénie, et Clisson, c'était le compagnon d'armes de Du Guesclin. Donc c'est voilà la métaphore. C'était franchement dans la littérature, on a écrit mieux.
Ah oui.
Et même moi, qui suis pas un grand écrivain, on peut dire que j'écris à peu près un peu plus convenablement. Enfin, tout d'un coup, Napoléon se dit pour faire carrière, il me faut une femme qui est de la prestance, qui tienne Paris. Joséphine de Beauharnais. Il plaque Désirée qui est à Marseille. Il l'épouse. En grand secret, Joséphine de Beauharnais, et il lui écrit « Désirée et pleurée, vous m'avez rendue malheureuse pour toute ma vie ». Bon, elle se console assez vite, parce que je vous donne la liste des amants. Il y a Léonard Dufaux, en 1797. Il a sa rue, donc il est aussi... C'est un militaire, ils deviennent tous maréchaux d'Empire. Il meurt à Rome. Bon, Alors, manque de peau, il y a Junot qui revient. Alors, Junot est très amoureux, mais il envoie Marmont, futur maréchal. Ouais. Et elle trouve en fait, que c'est... Marmont est plus à son goût quand même que...
C'est que des généraux ou des maréchaux d'Empire.
Bah, il fallait un minimum,
que parler, des, que ça. Des pauvres, alors.
Oui, alors, mais oui, non. Un peu prestigieux, le prestige de l'uniforme, si vous êtes voyant. Et alors, le nouveau courtisan, c'est Jean-Baptiste Bernadotte. Lui, natif de Pau. Ouais. Et puis, on l'appelle le sergent Bellejambe. Et c'est Joseph qui pousse à la roue. Et ils finissent par se marier en 1798. Ils ont un fils, Oscar. Sauf que...
Donc elle devient Madame Bernadotte.
Elle devient Madame Bernadotte. Ouais. Sauf que
Pourquoi on l'appelle le général ou le maréchal Bellejambe?
Parce qu'il avait une très belle jambe. Ouais. Mais vous savez que ce qui lui a valu beaucoup plus d'ennuis par la suite, c'est que en 1810, il est choisi par les Suédois comme prince héritier de Charles XIII qui n'a pas de descendant. Et donc il va devenir, en 1818, il va devenir Karl Johan XIV, roi de Suède.
Il devient roi de Suède. Elle devient reine de Suède.
Elle devient reine consorte de Suède.
C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit elle ne sera jamais impératrice.
Mais elle sera reine.
Mais elle sera reine, ce qui est quand même pas
elle
mal pour
reine,
un destin.
Mais elle n'en veut pas, évidemment. Elle trouve que c'est trop froid, le Nord. En plus, ils sont luthériens, ils sont très austères. Mm-hmm. Elle est très catholique, elle est marseillaise. Vous imaginez une petite marseillaise qui se retrouve dans les brumes de Stockholm. C'est pas possible. Et lui se mettra jamais nu devant son médecin.
Et pourquoi?
Parce qu'il était tellement révolutionnaire et tellement républicain qu'il a fait tatouer sur son torse « mort au roi ». Et donc, il avait tellement quand il a été élu roi,
c'est très très drôle.
Déshabillé devant ses médecins.
Ah, on croyait que c'était pour son côté belle jambe, nous.
Pour son bourrimé, mais pas rien à voir.
Non. Elle n'a pas voulu tellement aller en Suède. Elle n'a fini par se faire accepter comme suédoise qu'à partir de 1829. Mais elle a dit une chose sur le pouvoir des reines. Mm-hmm. À un moment, elle joue au piano, puis elle referme son piano. Elle dit « À quoi bon travailler son piano ? De toute façon, quoi que je fasse, si je joue aussi mal que possible, on dira toujours que je joue comme une reine.
» C'est joli. C'est génial. Mais cette Désirée Clary, la famille royale de Suède...
Ah, on descend. Parce que son fils Oscar a épousé, ça c'est l'ironie de l'histoire, a épousé Joséphine de Leuchtenberg, qui était la petite fille de l'impératrice Eugénie. Et les descendants, le roi Carl XVI Gustave et la princesse héritière Victoria, descendent directement de cette Désirée Clary et de Jean-Baptiste Bernadotte. D'ailleurs, ils parlent français, ils viennent régulièrement à Pau. Et d'ailleurs, la maison natale de Bernadotte va enfin être restaurée à Pau.
Dans un instant, on va raconter une autre histoire de femme, une certaine Madame Tallien. Pourquoi elle vous plaît, Stéphane?
Ah bah parce qu'elle aussi, les amants, elle les a collectionnés.
Hein. Encore une. À tout de suite dans la curiosité.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Les secrets d'histoire de Stéphane Bern, c'est ce que l'on vous propose ce soir dans la curiosité. C'est aussi évidemment le titre de son livre qui est publié chez Albin Michel. Déjà le sixième tome des secrets d'histoire.
Ça suit un peu les émissions de l'année en fait.
Ouais. Et donc vous réutilisez ce que vous avez découvert à l'occasion de vos émissions de télé.
Je ne jette pas mes fiches.
Il y en a beaucoup encore à venir.
C'est bien.
Ah bah oui, je suis déjà sur l'année prochaine, le septième tome. Oui.
Ouais. Alors on a décidé de se concentrer sur ces destins de femmes. On va s'intéresser à celui de Madame Tallien. Alors son histoire, elle nous mène encore au cœur de la Révolution française, et elle a même un point commun avec Désirée Clary dont on parlait tout à l'heure.
C'est Napoléon.
Ah oui?
Ah oui, bien sûr, Napoléon. Napoléon a voulu, elle a été la maîtresse de Napoléon. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les femmes jouent un rôle évidemment essentiel dans l'histoire. Souvent, elles ont leur joli visage à l'époque, hein, évidemment. Heureusement, aujourd'hui, on leur demande autre chose, et tant mieux. Moi qui suis féministe, ça me choque toujours qu'on me dise seulement leur beauté et leur fortune. Mais si vous voulez, elles sont obligées de se débrouiller dans un monde masculin. Elle est née Teresa Cabarrus, fille d'un banquier français qui a émigré en Espagne, qui a monté une banque importante. Son oncle maternel essaye de la trousser. Elle file, son père la met à l'abri, vite en France. Elle a 15 ans, elle se marie. Voilà, pour la première fois.
Elle devient marquise.
Marquise de Fontenay, etc. Mais en même temps, elle a un fils avec le pelletier de Saint-Farchaud. Elle est révolutionnaire, elle est plutôt acquise aux idées nouvelles.
Et elle par opportunité. opportunisme ou par conviction ?
Par conviction, ouais. Plutôt. C'est une femme libérée qui ne veut pas être l'épouse d'un mari, mais surtout les maris veulent piquer sa dot. Donc elle essaye de la préserver. Elle a un amant qui est un député, qui lui servira par les suites, Alexandre de Lamesse. Et en même temps, elle reste avec son mari et ils partent à Bordeaux parce que la révolution devient la terreur. Elle est quand même marquise, donc à Paris, il faut qu'elle se réfugie à Bordeaux.
Même une marquise révolutionnaire doit se protéger.
Oui, tout le monde, il y a la loi des suspects. Et ensuite, elle, dans le même temps, à Bordeaux, on envoie le cher monsieur Tallien.
Alors voilà, comment va-t-elle devenir madame Tallien ?
Ce qui est incroyable, c'est que Robespierre envoie Tallien faire la contre-révolution à Bordeaux et il instaure la terreur. C'est horrible ce qui se passe, les exactions, il a du sang plein les mains. Et elle est arrêtée en novembre 1793 et elle va jouer de son charme auprès de Tallien pour obtenir sa grâce. Non seulement elle va être libérée par Tallien, mais elle va faire libérer tous les autres suspects de la prison, tous les aristocrates qui étaient là et les autres qui sont à Bordeaux. On va l'appeler, elle va créer un bureau des grâces et on va l'appeler Notre-Dame du Bon Secours. Mais ensuite, ça ne va pas s'arrêter là, parce que comme Tallien l'a fait libérer, évidemment, il devient suspect aux yeux de Robespierre. Eh bien, c'est grâce à elle qu'il va y avoir le 9 Thermidor.
Attendez, le coup d'État qui renverse Robespierre ?
Absolument, on n'imagine pas. Il remonte à Paris, mais elle fait l'erreur de monter avec lui. Mmh. Et donc Robespierre se dit, je vais aller voir Madame Tallien, je vais lui demander de faire un témoignage contre Tallien, comme ça je tiens Tallien. Elle refuse, elle est emprisonnée, elle envoie un message à Tallien en lui disant, je meurs d'avoir été la compagne d'un lâche. Lui va
donc elle met la pression.
Elle met la pression sur Tallien.
Son amant.
Qui va, pour la sauver et pour se sauver aussi par la même occasion, il va déclencher la révolution de Thermidor, le coup d'état du 9 Thermidor. Et ils vont se marier, ils vont avoir une fille qu'on va appeler Thermidor. Elle devient Notre-Dame de Thermidor. Mais elle le quitte. Elle le quitte à ce moment-là. Elle devient l'égérie du directoire, la merveilleuse.
Une
égérie de mode, parce que les merveilleuses, évidemment, s'habillaient. On parlait pointu, comme ça. Enfin, on change le vocabulaire. À ce moment-là, elle va retrouver Joséphine de Beauharnais. Elles vont échanger leur amant. C'est-à-dire, Barras va entrer dans le lit de Madame Tallien, et puis elle va lui donner Napoléon, qui était passé dans son lit.
Elle s'était refusée à Napoléon,
Oui.
Et quand il prend le pouvoir, il s'en souvient, Napoléon,
Elle l'humilie. Elle l'humilie parce qu'elle lui avait fait une chose où il s'en souvient.
Oui.
Elle va être persona non grata
cour impériale.
Parce qu'elle lui avait donné du drap pour qu'il refasse des culottes parce qu'elle le trouvait vraiment trop cheap pour parler un peu trivialement.
Oui, la future égérie de la mode.
Pour bien se rendre compte, ces femmes comme Madame Tallien, ce sont quoi ? Des people à l'époque, des héroïnes ?
Oui, bien sûr, ce sont des héroïnes. Ouais. Des femmes à la fois qui pensent, qui agissent, qui règnent sur le tout Paris, mais qui aiment aussi avoir une cour, avoir des hommes qui la courtisent. Il y a le banquier Ouvrard qui va lui faire 4 enfants. Et puis tout d'un coup, comme Napoléon arrive vraiment au pouvoir et qu'elle n'a plus rien, eh bien, elle va rencontrer chez Madame de Staël. Alors évidemment, il y a l'endogamie entre people. Mmh. Elle va rencontrer le prince de Caraman-Chimay. Elle veut dire, voilà, je vais faire une...
Attendez, c'est où ça ?
C'est en Belgique.
D'accord.
Chimay,
c'est la bière.
Oui, voilà, c'est dans les Ardennes belges.
D'un seul coup, ça me réveille.
Elle se dit, je vais faire une fin honorable et je vais quitter la France. Et elle devient la princesse de Caraman-Chimay.
Mais c'est un destin incroyable. Combien de maris, combien de
filles, j'ai envie de dire. Écoutez, mariée 3 fois officiellement, mais elle a eu 11 enfants avec 6 hommes différents.
Ah oui, c'est bien. Et de 4 nationalités différentes, si je ne me trompe.
Bah, toujours pendant la Révolution, il y a un autre destin de femme que vous allez nous conter, Stéphane Bern. C'est celui de la princesse de Lamballe, celle qui a refusé d'accuser Louis XVI et Marie-Antoinette.
Et bien plus tragique comme destin.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Stéphane Bern est avec nous dans notre cabinet de curiosité. On raconte avec lui, on dévoile les grands secrets de l'histoire de France. Et la Révolution française nous sert de cadre depuis tout à l'heure avec plusieurs destins de femmes, des destins absolument fascinants comme celui de la princesse de Lamballe. Elle naît déjà princesse de Savoie.
Oui, elle est italienne, donc princesse de Savoie-Carignan. Ses descendants les descendants de son père plutôt, sont devenus les rois d'Italie jusqu'en 1940. 1846. À 17 ans, elle épouse un aristocrate français qui s'appelle Louis-Alexandre de Bourbon-Penthièvre, prince de Lamballe, et qui est cousin du roi. Les Penthièvres, c'est d'ailleurs le grand-père de son mari, était fils légitimé de Louis XIV. Et donc, ils ont des privilèges à la cour. On l'appelle ma cousine. Son mari a la mauvaise idée d'attraper une maladie vénérienne. Par chance, il ne la refile pas à sa femme. Mais elle se trouve veuve à 18 ans.
Et là, on est à la cour de Louis XV.
On est à la cour de Louis XV. Mmh. Elle est très protégée par son beau-père, le duc de Penthièvre, qui est un homme très bon. Elle, on l'appelle Bonange. Vous savez, c'était une femme d'une grande piété, d'une grande douceur, d'une grande rigueur et droiture morale. Et à ce moment-là, elle arrive à la cour de France, Marie-Antoinette d'Autriche. Elle épouse le dauphin, donc le futur Louis XVI, en 1770.
Et elles deviennent amies, c'est ça ?
Elles deviennent amies parce que la reine, vous savez, elle a dû abandonner toutes ses dames d'honneur, toutes ses dames d'atour, tout ce qui était autrichien, elle a dû l'abandonner à la frontière. Elle se retrouve en France seule, personne. On lui met la comtesse de Choiseul comme
dame de compagnie, dame de cour, on peut dire.
Voilà. Et madame de Noailles, qu'on appelait madame étiquette, que des vieilles dames un peu accablées. Et odieuse. Et donc tout d'un coup, elle voit lors d'un bal, elle voit cette jeune femme qui est tout à fait fraîche, charmante, qui est blonde, qui a des origines allemandes aussi comme elle. Et il y a une sorte de relation fusionnelle qui va avoir lieu entre ces deux femmes. On s'appelle à la mode rousseauiste, vous savez, mon cher ange, mon cœur, ce qui fera dire après pendant la Révolution par des pamphlets orduriers qu'elles avaient une relation saphique, ce qui est absolument pas le cas. Et à l'avènement de Louis XVI, madame la Marie-Antoinette fait de sa meilleure amie la surintendante de la maison de la reine.
Ça veut dire quoi, ça ?
Surintendante, c'est-à-dire qu'elle est payée 150 000 livres de rente annuelle, c'est-à-dire qu'elle est... c'est un peu Jean-Pierre Jouyet, quoi, si vous voulez.
Le secrétaire général de l'Élysée.
En tout cas, pour la reine.
Pour la reine, on a bien compris.
Pour le roi.
On a
bien
compris.
Elle est vraiment très en cour, c'est-à-dire qu'elle a...
Donc c'est une femme d'influence.
Une femme d'influence qui arbitre les dames d'honneur, les dames d'atour, les dames de compagnie, les lectrices, etc.
Elle est jalousée ou elle est aimée ?
Elle est très jalousée.
La princesse de Lamballe.
Et surtout... elle n'a pas le caractère qui va avec. Quand vous êtes surintendante de la maison de la reine, il faut organiser les dîners, il faut organiser les pique-niques, il faut tout organiser. Or, elle est de santé fragile. Elle est droite, elle déteste les potins, elle déteste tout ce qu'aime Marie-Antoinette, finalement. Et d'ailleurs, les deux femmes vont un peu se séparer à ce moment-là, parce qu'arrive un autre soleil dans la vie de Marie-Antoinette, qui est une femme démoniaque, Gabrielle de Polignac. Et la Polignac va prendre le pouvoir, sauf que quand vous êtes surintendante de la maison de la reine, vous l'êtes jusqu'à votre mort. Et donc
elle garde le titre, mais moins d'influence, c'est ça ?
Elle a moins d'influence. En même temps, elle continue d'organiser tout pour la reine. Et vous savez que la révolution est là. Il y a la famille royale quitte Versailles, va au château des Tuileries. En juin 1791, c'est la fuite à Varennes. Eh bien, la princesse de Lamballe en profite pour partir vers Bruxelles, puis Aix-la-Chapelle. Et ce qui est horrible dans cette histoire, c'est autant madame de Polignac va être protégée, elle a réussi à sauver sa peau, elle a tellement calculé. Et la princesse de Lamballe, qui est une femme formidable, qui est une femme bien, elle va être victime de la Révolution.
Qu'est-ce qui va lui arriver ?
Barnave, qui était un modéré, dit à Marie-Antoinette, il faut envoyer, après l'échec de Varennes, il faut envoyer un signal fort aux révolutionnaires modérés.
Revenez.
Dites à votre meilleure amie, la surintendante de la reine, de revenir. Et la reine d'abord dit non, ça va la tuer si elle revient. Et finalement, elle accepte.
Donc là, attendez, juste pour bien comprendre, la princesse de Lamballe sert d'intermédiaire entre les révolutionnaires modérés et la reine, c'est ça.
Elle va servir d'otage et elle va revenir par loyauté, par fidélité par Marie-Antoinette. Sauf qu'à ce moment-là, il y a le 10 août 1792, c'est-à-dire que la famille royale est emprisonnée au Temple. Madame de Tourzel, la surintendante des enfants du roi et de la reine, et madame de Lamballe, la surintendante de la maison de la reine, va être emprisonnée et à la prison de la Force et elle va être massacrée dans les journées révolutionnaires du 2 et 3 septembre 1792.
Comment ça va se passer ?
Ça va être
une espèce de simulacre de procès, ça commence comme ça ?
Un simulacre de procès, une sorte de procès révolutionnaire. Les gens sont là, votent la mort de la princesse de Lamballe. Comme il y a eu les pamphlets orduriers, vous savez, ils vont Elle va être massacrée à coups de marteau. Elle va être violée. Ses organes génitaux vont être déchiquetés. Mmh. On va couper sa tête, la porter au bout d'une pique sous les fenêtres de Marie-Antoinette. Et des révolutionnaires vont utiliser ses poils pubiens pour se faire des moustaches et vont défiler sous les fenêtres de la reine. On raconte que la reine Marie-Antoinette, en voyant ce spectacle, parce qu'il y avait du bruit sous la tour du temple, va tomber évanouie. Mmh. Et que dans la nuit, tous ses cheveux vont blanchir.
Quelle histoire. Elle, en fait, c'est sa fidélité à la reine
qui l'a tué.
Qui l'a tué.
Oui. Alors que d'autres sont partis en exil, ses beaux-frères, la princesse de Polignac, tous se sont sauvés. Mmh. Et la princesse de Lamballe, elle a été fidèle et pourtant l'histoire l'a mal jugée.
Mmh. Alors des histoires passionnantes, on en lit dans votre livre Secret d'Histoire, c'est le volume 6 aux éditions Albin Michel. On a parlé beaucoup de femmes, il y a d'autres histoires de femmes.
Il y a Charlemagne et Hannibal dont on a parlé. Mais c'est vrai justement. Que c'est des guerriers.
Non mais guerriers. Ce qui m'a intéressé, c'est que Charlemagne, on découvre que c'est notre grand-père, arrière-grand-père à tous.
Mais oui.
On a un ancêtre commun.
9 Français sur 10. Ben c'est statistique. Hein. 9 Français
sur
10.
Il a eu autant d'enfants que ça ?
Oui, énormément. On remonte, c'est l'entonnoir, hein, finalement.
Ah oui, d'accord, oui, c'est valable avec.
Donc les généalogistes,
plein de grands personnages.
Les généalogistes disent que 9 Français sur 10 descendent de Charlemagne.
C'est un calcul statistique, je trouve. Tout ça n'est pas très.
Moi, parce que André Facetta,
André Facetta, notre réalisateur, fait un peu la tête. Je ne suis pas sûr qu'il va être le descendant de Charlemagne. Il a eu effectivement beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, Charlemagne.
Oui, beaucoup de femmes. Mais il les a plutôt bien traitées, il faut bien le dire, alors qu'on est là en l'an 771. Il épouse d'abord Hildegarde, qui lui donnera 9 enfants. C'est une des femmes qu'il a aimées. On l'appelle la mère des rois, mais elle meurt. À l'époque, on mourait à 24 ans. Elle est enterrée à Thionville. Puis on se remarie une troisième fois à Fastrade, la seule. Alors c'est celle qu'il aime le plus, mais c'est la plus cruelle. Allez comprendre pourquoi les hommes finalement se laissent dominer par les femmes les plus cruelles. Il se remarie à Lindgarde, qui est très belle, mais qui meurt aussi très vite. Il a des concubines qui lui donnent une flopée d'enfants. Il aura plein de filles lui-même. Il sera entouré de sa mère Bertrade, de sa sœur Gisèle, de plein de femmes autour de lui. Il interdira à ses filles de se marier parce qu'il estime que rien ne peut être supérieur au Regnum Francorum, au royaume franc. Et c'est un destin incroyable.
C'est-à-dire le secret d'histoire de Charlemagne, c'est qu'il a toujours vécu entouré de femmes, c'est ça,
exactement.
D'une certaine façon.
Et qu'il était un culte, mais il s'est cultivé tout au long de sa vie. Mmh. C'est un homme qui a appris à écrire, qui s'est vraiment, il a compris qu'il fallait qu'il devienne l'empereur d'Occident le plus lettré. Et il a été, vous savez, c'est dans la nuit de Noël de l'an 800 que le pape l'a sacré empereur d'Occident.
Merci beaucoup Stéphane. Il y a énormément d'histoires tout aussi passionnantes que celles que l'on vient de raconter dans La curiosité est un vilain défaut dans votre livre Secret d'Histoire. C'est le tome 6 qui est publié chez Albin Michel. Je signale aussi Le village préféré des Français. Là aussi, c'est une émanation, on va dire.
Vous êtes une véritable
de
bibliothèque.
De télévision.
N'est-ce pas, oui. J'essaie d'occuper les librairies.
Ça marche bien.
C'est pas trop mal.
C'est pas trop mal.
Vous savez quoi, on a une petite surprise pour vous. C'est sympa parce que, sans le savoir, vous avez accepté de faire la promotion de la suite de l'émission, écoutez.
RTL jusqu'à 22h.
J'espère que cet épisode exceptionnel de
La curiosité est un vilain défaut
vous aura permis de mieux comprendre la personnalité intime et profonde de
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et je vous propose maintenant de poursuivre ensemble cette grande soirée spéciale avec un nouvel épisode inédit de
La curiosité est un vilain défaut.
Restez avec nous. Bonsoir.
Vous revenez tous les soirs. Hein.
Bah, bravo, c'est formidable, bravo.
Demain, à la bonne heure,
si
vos invités d'amour.
Demain, c'est Stéphane de Groot.
Ah, très bien.
Ah oui, pour un livre, pour un film, pour une BD. Enfin,
il revient au Grand Journal, je crois aussi.
Oui,
si je ne me trompe.
Absolument.
Bah, vous êtes au cœur de l'actu, bravo. Oui.
Vous écoutez RTL.